Bennur, chapitre 9. Arius Quintus prend la mer. La ville de Misène, qui a donné son nom au cap qu'elle couronnait, à quelques kilomètres de Naples, dans la direction du sud, n'est plus qu'un amas de ruines. Mais en l'an 24 de notre ère, c'était une des plus florissantes cités de l'Italie. Si la vue que l'on découvrait alors du haut de ses remparts sur la baie de Naples, sa plage sans rivale, ses îles charmantes émergeant toutes blanches de la mer aux flots bleus, est restée la même, nul ne reverra jamais la moitié de la flotte des empereurs romains évoluant dans le port de Misène ou s'y balançant sur ses ancres. Il se trouvait dans la muraille de la ville une grande porte, toujours ouverte, sous laquelle venaient se rejoindre une rue et une longue jetée qui semblaient n'être que la continuation l'une de l'autre. Un garde veillait à toute heure au-dessus de cette porte. Ce garde, par une belle matinée de septembre, entendit monter vers lui un grand bruit de voix. Il jeta un coup d'œil dans la rue et vit s'avancer un groupe d'hommes. L'un d'eux paraissait avoir une cinquantaine d'années. Une couronne de feuillage entourait sa tête légèrement chauve. Il portait ainsi que ses amis une ample toge blanche bordée de pourpre. De nombreux esclaves les suivaient. Ils agitaient des torches allumées dont la fumée répandait un lourd parfum de nard indien. Le garde comprit que ces hommes étaient des personnages de haut rang, escortant après une nuit de fête un des leurs au navire sur lequel il allait s'embarquer. « La fortune agit mal, Quintus, en t'enlevant déjà à nous, » disait un de ses amis de celui qui se disposait à partir. « Tu n'es revenu que hier des mers lointaines, et c'est à peine si tu as eu le temps de rapprendre à marcher sur terre ferme. »« Par Castor !» s'écria une voix fortement avinée. « N'allons pas nous lamenter. Quintus s'en va chercher à regagner l'argent qu'il a perdu cette nuit. Les dés lui seront peut-être plus favorables à bord de son bateau que dans une salle de festin. »«
Ne médis point de la fortune, » dit un troisième. « Elle n'est ni aveugle ni capricieuse, elle accompagne Quintus partout et le rend toujours victorieux. »«
Ce sont les Grecs qui nous l'enlèvent, mais disons donc d'eux plus que des dieux. Depuis qu'ils se sont fait marchands, ils ne s'entendent plus à la guerre. »
Tout en parlant, ils avaient passé sous la porte et gagné le môle. Devant eux s'étendait la mer étincelante aux rayons du soleil matinal. Le bruit des vagues caressa les oreilles du marin, comme celui de la voix d'un ami. Il aspira longuement l'air imprégné d'une odeur salée.
« Le vent souffle de l'ouest, » dit-il. « Je t'en rends grâce, ô fortune, ma mère. »
Tous ses compagnons répétèrent son exclamation et les esclaves brandirent leurs torches.
« Voyez-vous cette galère qui approche ? » continua-t-il en étendant la main vers le large. « Quel besoin un marin aurait-il d'une autre maîtresse ? » « Ta Lucrèce est-elle plus gracieuse, Caius ?» Vraiment, elle avait grand air, cette fière galère. Sa voile blanche se gonflait sous l'effort du vent et ses rames s'élevaient et retombaient avec un mouvement d'ailes d'une régularité admirable.
« Oui, reprit le marin, épargnez les dieux, car ils nous font partie belle, à nous la faute si nous la perdons. Et quant aux Grecs, tu oublies Lentulus. » Que les pirates que je vais combattre sont justement des Grecs. Une victoire remportée sur eux en vaudrait 100 conquises sur des Africains.
Alors, tu pars donc pour la mer Égée ?
Mais le marin n'avait Dieu que pour son bateau. Quelle grâce ! Quelle aisance ! S'écria-t-il. Un oiseau ne se soucierait pas moins des vagues.
Mais tu me parlais, Lentulus ? Oui, c'est vers la mer Égée que je vais me diriger et mon départ est si prochain que je puisse en trahir un secret d'État, vous en dire la raison.
Les pirates chersonésiens, natifs des parages voisins du pont Euxin, ont traversé le Bosphore, coulé bas les galères de Byzance et de Chalcédoine et atteint la mer Égée. La nouvelle vient d'en arriver à Rome. Les marchands de blé dont les navires se trouvent dans la partie orientale de la mer Méditerranée, fort effrayés, ont fait demander une audience à l'empereur. Aujourd'hui même, 100 galères doivent partir de Ravenne et de Misène. Il s'arrêta comme pour mieux exciter la curiosité de ses amis. Puis il ajouta avec emphase, « De Misène, une seule ».
Heureux Quintus, reçois nos félicitations. Cela fait préjuger ton avancement. Nous saluons en toi un futur duum vir. Cela sonne mieux que Quintus Arius le tribun.
Merci, merci, mes amis, leur dit Arius. Si vous portiez des lanternes, je dirais que vous êtes des augures. Père Paul, j'irai plus loin et je vous montrerai quel maître de vin vous faites. Voyez et lisez. Il prit dans les plis de sa toge un rouleau de papier qu'il leur tendit en disant « Je l'ai reçu cette nuit, pendant que nous étions à table. C'est de Séjan. » Ce nom, déjà célèbre dans le monde romain, n'était point encore couvert d'infamie comme il le fut plus tard.
« De Séjan !» s'écrièrent-ils tous d'une seule voix, en se serrant les uns contre les autres, afin de lire ce qu'écrivait le ministre. « Séjan à Cecilius Rufus Duum Vir, Rome, 19e calende de septembre. César a reçu de bons renseignements au sujet de Quintus Arius, le tribun. Il a particulièrement entendu louer la valeur dont il avait fait preuve dans les mers du Sud. Ensuite de quoi ? Sa volonté est que le dit Quintus soit immédiatement envoyé en Orient. C'est en outre la volonté de César que 100 trirèmes de première classe soient mises sans délai à la poursuite des pirates dans la mer Égée et que Quintus prenne le commandement de cette flotte. Le soin des détails concernant cette expédition t'est remis, très excellent Cecilius. La chose est urgente, ainsi que tu le verras par le rapport ci inclus, lequel tu remettras au dit Quintus, Séjan. Arius n'avait pas prêté grande attention à la lecture de cette lettre. Plus son vaisseau approchait, plus il s'emparait de son intérêt. Il le considérait avec des regards enthousiastes. Enfin, il agita un des pans de sa toge. Aussitôt, en réponse à ce signal, un pavillon écarlate fut tissé à la poupe de la galère, tandis que plusieurs matelots s'empressaient de carguer la voile. L'avant vira de bord, le mouvement des rames s'accéléra, et la galère se dirigea à toute vitesse vers la jetée. Quintus remarquait avec une satisfaction évidente comme elle répondait au moindre mouvement des rames et combien sa marche était régulière. « Par les nymphes, lui dit un de ses amis, en lui rendant le rouleau, nous ne devons plus dire que tu deviendras fameux, tu l'es déjà. N'as-tu pas d'autres nouvelles à nous communiquer ?»«
Aucune. » « Ce que vous savez est à l'heure qu'il est, à Rome, une vieille histoire. Du palais au forum, nul ne l'ignore, mais pour ce qui est de la route que je dois suivre et de l'endroit où je rejoindrai ma flotte, je ne la prendrai moi-même qu'à bord où m'attend un paquet de dépêches dûment scellées. Cependant, s'il vous arrive d'offrir aujourd'hui des sacrifices sur quelque autel, priez les dieux pour un ami naviguant près de la Sicile. Mais la galère s'apprête à aborder. » Il me tarde de faire la connaissance des maîtres d'équipage qui vont faire voile et combattre avec moi. Ce n'est pas une chose aisée que d'atterrir en un endroit comme celui-ci. Nous allons juger de leur habileté.
Cette galère te serait-elle inconnue ? Je ne l'avais jamais vue jusqu'ici, et j'ignore encore si je trouverai à bord un seul visage déjà rencontré sur d'autres navires.
N'est-ce point là un fait regrettable ?
Mais il est de peu d'importance. Nous apprenons vite à nous connaître, nous autres gens de mer. Nos amitiés, comme nos haines, naissent au milieu des dangers. Le vaisseau qui approchait était long, étroit, construit de façon à pouvoir évoluer vite et facilement. Sa proue, superbement arquée, fendait l'onde qui rejaillissait jusqu'à l'extrémité du tillac. Des deux côtés, on avait sculpté des figures de tritons, soufflant dans des conques. Un fort éperon de bois, revêtu de fer, s'avançait au niveau de la ligne de flottaison et servait de bélier dans les combats. Tout le long du bassingage crénelé s'étendait une large corniche qui surmontait les trois rangs d'ouverture, protégée par des capuchons en cuir de bœuf, au travers desquels passaient les rames. D'immenses cordes jetées autour du tillac correspondaient au nombre des ancres rangées sur l'avant-pont. À voir la simplicité de la mâture, on comprenait que les rames étaient dans le bateau la chose principale. Le mât placé un peu en avant du milieu du pont et retenu par des cordages fixés à l'intérieur du bastingage portait une voile unique de forme carrée. On ne voyait de la jetée, à part les matelots qui venaient d'amener cette voile, qu'un seul homme sur le pont du navire. Il se tenait à la poupe et portait un casque et un bouclier.
Les 120 rames en bois de chêne, blanchies par la pierre ponce et le constant contact des vagues, se levaient et s'abaissaient comme si une seule main les avait fait mouvoir, et la galère marchait avec une vitesse semblable à celle d'un vapeur des temps modernes. Elle pointait sur le môle, en ligne si directe que les amis du tribun, peu accoutumés à un spectacle de ce genre, en prirent de l'alarme. Soudain, l'homme, debout à la poupe, fit un signe de la main. Aussitôt, toutes les rames se dressèrent, puis retombèrent lourdement dans l'eau qui bouillonnait autour d'elles. Pendant un instant, un tremblement sembla secouer le bateau, qui s'arrêta brusquement. Encore un signe, et de nouveau, les rames s'élevèrent et retombèrent, celle de droite battant en avant, celle de gauche en arrière. Trois fois la même manœuvre se répéta. La galère tournait comme sur un pivot. Enfin, elle prêta le flanc au vent et, doucement, vint se ranger le long de la jetée. Au moment où elle abordait ainsi, les trompettes sonnèrent et l'on vit paraître sur le pont les soldats de marine, splendidement équipés, leurs casques de bronze, leurs boucliers, leurs javelots brillaient au soleil d'un éclat éblouissant. Tandis qu'ils se rangeaient en ordre de combat, les matelots grimpaient avec agilité le long du mât et se plaçaient sur la grande vergue. Les officiers, les musiciens étaient à leurs postes respectifs. On n'entendait ni un cri, ni un bruit inutile. Une passerelle fut jetée entre le pont et le môle, et le tribun, se tournant vers ses compagnons, leur dit avec une gravité dont il n'avait jusqu'alors donné aucun signe, « Maintenant, mes amis, le devoir m'appelle. » Il enleva la couronne de myrte qui ornait sa tête et la tendit aux joueurs de dés. « Garde ces lauriers, lui dit-il. Si je reviens, je prendrai ma revanche. Si je ne remporte pas la victoire, vous ne me reverrez jamais. Suspends cette couronne dans ton atrium. » Il les embrassa l'un après l'autre, tandis que lui disait « Que les dieux soient avec toi, Quintus. » « Adieu, répondit-il, et après avoir fait de la main un signe aux esclaves qui brandissaient leurs torches, il monta sur le navire. Au moment où il posait le pied sur le pont, un éclat de fanfare l'accueillit et l'on hissa sur le grand mât le pavillon écarlate que seuls les commandants de flotte avaient le droit d'arborer.